Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up Pro. Vous écoutez Raphaël et oui, aujourd'hui pour la première fois, j'ai réussi à faire entendre ma voix et je suis présentateur pour commenter ce Raw du 24 avril 2017 qui avait lieu à Kansas City. Mais rassurez-vous, je ne suis pas tout seul et avec moi, j'ai forcément un spécialiste, l'inévitable, l'insubmersible, Handsome Ringside. Ringside, comment vas-tu?
Écoute, ça va très bien. Salut les amis.
Eh bien, parfait. Tu as passé un bon moment en visionnant ce Raw?
Un bon moment, bien mieux que le week-end de merde qui a précédé.
D'accord.
J'étais bien content de retrouver ce merveilleux monde de la WWE.
Oui, tu as raison, je te comprends. Eh bien, écoute, on va commencer de suite. Alors, ce Raw a pas commencé dans un moment merveilleux, hein, puisqu'on nous a résumé un petit peu tout ce que nous a fait Braun Strowman la semaine dernière, hein, défoncer Roman Reigns et puis péter le ring avec le Big Show, histoire qu'on se souvienne si on avait oublié. Mais ça, bon, on va pas revenir dessus, hein, c'était un petit segment d'ouverture. Non, le vrai début de la soirée, hein, c'est ouvert par Chris Jericho. Chris Jericho qui nous ouvre un highlight reel, hein, qui est potentiellement le dernier highlight reel qui pourrait arriver à Raw, puisque s'il bat Kevin Owens à Payback dimanche, hein, rappelons qu'on est dans un go-home show, s'il bat Kevin Owens dimanche, eh bien, il gagne SmackDown, hein, il rejoindra SmackDown, c'est ainsi qu'est fait le contrat. Et bien évidemment, Jericho, hein, il pense qu'il va gagner contre Owens, mais c'est pas grave, hein, Raw ou SmackDown, il sait que les Friends of Jericho vont le suivre partout. Donc il félicite tout le monde, il se fait un peu cheer me on man, la foule adore, hein, Jericho. Il en profite pour se moquer un peu de Kevin Owens, c'est de bonne guerre, hein. C'est pour lui Kevin Owens c'est pas the face of America, ça fait un très vilain visage, il l'appelle plutôt les hémorroïdes de l'Amérique, c'est ça, hein, j'ai cru comprendre.
Mm-hmm. Ouais, un truc comme ça, ouais.
Ouais, bon bah voilà, il taquine comme il sait faire, hein. Mais bon, Kevin Owens il est pas là ce soir, et du coup bah il y a eu une petite seconde de vide là où Jericho on avait l'impression qu'il savait plus ce qu'il fallait qu'il dise. Heureusement, il a été interrompu. Et il est interrompu par le Miz and Maryse, le fameux Heat Couple. Et le Miz and Maryse, bah, ils sont pas très contents que ce soit le Highlight Reel qui ouvre la soirée. Et avec eux, quand ils sont pas contents, et ben, ils s'arrangent et le Miz annonce que le Highlight Reel est cancelled, est supprimé et il va être remplacé, et bien, par Miz TV. Du coup, bah, on a tous les techniciens, les mecs de la technique, de la régie, qui arrivent, qui enlèvent les tapis de sol, qui remplacent les lampes, etc. Enfin bref, on se retrouve dans Miz TV. Alors le Miz nous lance Miz TV, mais il a même pas le temps de le lancer qu'il est interrompu par Dean Ambrose, The Lunatic Fringe, qui arrive. Et Dean Ambrose, il est pas très content. Il trouve que c'est très 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 mal, hein, très très mal poli de voler comme ça un talk show à quelqu'un, ça se fait pas d'interrompre un talk show et de le remplacer par le sien. Du coup, bah qu'est-ce qu'il fait Dean Ambrose? Ah bah il supprime Miz TV et il lance le Ambrose Asylum. Donc même chose, petit passage des techniciens qui nous mettent le Ambrose Asylum et on va en rester là puisqu'il n'y a pas de quatrième mec qui vient lancer son show, hein, on n'a pas eu un peep show ou je ne sais quoi, ou un cutting edge. Mm-hmm. Ça aurait pu durer longtemps sinon. Et Dean Ambrose, eh bien, il a pour invité à son Ambrose Asylum bah, Chris Jericho et le Miz et Maryse, puisque bah, ils sont là. Alors Dean Ambrose, il fait partie des rares catcheurs qui se souviennent un peu ce qu'ils ont fait ces derniers mois. Il se rappelle, hein, qu'il a été en guerre violente contre Jericho. Il lui doit encore 15 000 dollars, hein, d'ailleurs, lui rappelle Jericho. Mm. Mais Dean Ambrose, il a pas 15 000 dollars. Alors, a priori, ça s'est mal passé pour lui ce week-end au casino. Hein. Je sais pas, toi, ça s'est bien passé pour toi, Ringside, au casino ce week-end?
Ah, moi, j'ai gagné à gogo.
Ah, ben voilà. Bah, écoute,
peut-être aux dépens de Dean Ambrose, on sait pas.
Ouais, peut-être. Bon, de toute façon, t'as pas d'ardoise, tu dois rien à Chris Jericho.
Non, c'est pas non. Moi qui paierai sa veste. Non.
Ouais. Mais du coup, bah, Dean, il a pas 15 000 dollars, mais il a mieux, il a un cadeau. Il a un cadeau pour Chris Jericho. Alors, Chris Jericho, il est un peu méfiant, hein, quand il ouvre un cadeau. Il se rappelle que la dernière fois qu'il a ouvert un cadeau, il a fini tabassé. Mais bon, là, c'est pas du tout le thème de la soirée. Non, c'est un très beau cadeau. C'est une veste, une superbe veste sur laquelle Dean Ambrose a visiblement accroché lui-même une sorte de guirlande de Noël. Alors, à la grande surprise de ceux qui connaissent un peu les goûts vestimentaires de Jericho, eh ben, Y2J aime bien. Il est très content, ce nouveau cadeau. Il est très, très content. Dean Ambrose est content que Jericho soit content, enfin tout le monde est content.
Le seul qui est pas content, c'est le Miz. Le Miz, il trouve ça scandaleux. Il trouve que Dean Ambrose est vraiment un très très mauvais champion intercontinental. Et s'il y a quelqu'un qui devrait recevoir des cadeaux, ben c'est lui, le Miz. Toutes les superstars de la WWE devraient venir lui donner des cadeaux pour le remercier du prestige qu'il a donné à la ceinture blanche.
Bah, du coup, Dean Ambrose dit « Ok, bah écoute, j'ai un cadeau pour toi. » Et hop, Dirty Deeds, pouf, le Miz finit par terre.
Dean Ambrose s'en va et Chris Jericho en profite pour mettre Maryse sur la liste. Voilà pour ce segment d'ouverture. Alors, Ringside, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
Bah, ma foi, quel beau résumé. Non, bah écoute, moi j'ai trouvé ça bien sympathique, cette idée-là de battle des... comment dire, de leur petite talk show respectif là, les trois qui se sont succédés comme ça, c'était plutôt original je trouve pour démarrer le show. Ça nous change des sempiternels débuts de show avec Stephanie McMahon et compagnie où ça blablate pendant une demi-heure. Là, il y avait un petit jeu comique. Les trois étaient bien dans leur personnage. Hein. Chris Jericho, il fonctionne plutôt bien en face pour l'instant. On sait que c'est pas toujours exceptionnel quand Chris Jericho est en face, mais pour l'instant, bon, il a sa pop, ses gimmicks, ça fonctionne bien encore, ses catchphrases, ça fonctionne toujours auprès du public. Donc pour l'instant, on n'est pas encore à saturation du personnage. Le Miz, il est toujours plutôt efficace, plutôt excellent, hein, même j'ai envie de dire. Et Ambrose, bah, il était aussi bien à sa place. Il devrait peut-être le laisser parler un peu plus encore Ambrose, se lâcher un petit peu plus, ce serait peut-être encore un peu plus percutant. Mais bon, dans l'absolu, c'était plutôt bien pour un truc qui finalement racontait pas grand-chose, hein, parce que c'était peut-être juste pour faire l'histoire de ce soir, quoi, du Monday Night Raw de ce soir, sachant qu'on
là,
est...
c'est un go-home show, ouais.
Voilà, on est dans un go-home show, puis en plus, la plupart des matchs qui sont prévus, finalement, c'est pas trop en rapport avec ce qui se passe dans les weekly, puisque c'est beaucoup des matchs interbrand au final, avec un peu les restes de ce qui s'était passé à Mania, et puis des anciennes séparations de bandes, donc là c'est vrai qu'on est, c'est pas quelque chose qui va révolutionner le scénario des weekly, mais bon, ça reste plutôt bien foutu, c'était plutôt rigolo, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa.
Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi, en tout cas je trouve que Dean Ambrose c'est vraiment un des catcheurs qui a la carrière la plus en dents de scie niveau, des fois il est très très mauvais. Et là, je le trouve, ces dernières semaines, là, contre le Miz, il interagit assez bien, mais j'ai l'impression que tout le monde interagit très bien avec le Miz, donc.
Ouais, il y a ça aussi, là.
Donc, ouais. Mais, ouais, du coup, un début sympa. Alors, ça va donner des répercussions, hein, on va en parler un petit peu plus tard, mais avant, on a quand même un peu de catch, hein, sur le ring. Eh bien, c'est une prolongation de ce qu'on a eu la semaine dernière, puisque la semaine dernière on avait eu Jeff Hardy contre Cesaro et Jeff Hardy il avait emporté, et bien ce soir on a logiquement Matt Hardy contre Sheamus, hein, je le rappelle, les deux frères Hardy qui sont les champions tag team de la WWE, ça me fait toujours plaisir de le rappeler en 2017 et ils vont défendre leur titre donc ben, contre Cesaro et Sheamus. Du coup, on a un match entre les deux. Alors on a d'abord une bonne domination de Matt Hardy, mais après Sheamus prend le relais, il est assez assez dominateur, hein, assez stiff toujours chez Mus, il fait passer tous ses coups de genoux, de poing, les 10 coups de poing sur les cordes, etc. Il évite un twist of fate à l'extérieur du ring, il place un rolling senton sur Matt, et là, ça se tend un petit peu, puisqu'il y a Jeff Hardy qui vient voir un petit peu si son frère a pas trop souffert. Sheamus il pousse Jeff Hardy avant de remonter sur le ring, là il remet Matt sur le ring, il va remonter, Jeff Hardy veut monter sur le ring aussi, Cesaro l'empêche, l'arbitre sait plus trop quoi faire, et Matt Hardy profite de la confusion pour placer un twist of fate et donc faire gagner son équipe, gagner lui tout seul. Au passage, pendant le match, hein, il a un petit peu teasé, il a lancé quelques delete, hein, même si la foule a pas besoin qu'il les lance pour les dire. Mmh. Et bien après, contrairement à la semaine dernière où le match était fini très 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 sportivement parlant, très très fair play, ben là Cesaro est furieux, il est très très énervé contre Jeff Hardy. Ça discute beaucoup, ça se parle, ça s'énerve, on sent que ça s'échange quelques mots doux. Et finalement, ben, assez étonnamment, Sheamus calme tout le monde. Il dit OK, on se calme, et il va même jusqu'à lever le bras de Matt et applaudir. Donc finalement, les quatre hommes se serrent les mains. On a l'impression qu'ils sont de nouveau amis. Alors sachant qu'ils vont s'affronter ce dimanche pour les titres par équipe, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça, à ton avis, ringside? Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va sortir un peu de cette de ce duel de fair play?
Bonne question. Je t'avoue que je suis un peu, j'ai un peu posé mes bagages à Perplexity pour ce segment-là qui voit deux équipes face s'affronter sans qu'il y en ait une qui veut basculer du côté obscur. Ça se serre la main à la fin. J'avoue que bon, c'est original, mais ça, je trouve que ça manque un peu d'impact. Mais c'est sûr que du coup on va se demander ce qui
Oh
va. Ah oui, jeu de mots.
oh. Oui.
Fuck that all. Voilà, on se demande un peu où ils veulent en venir quoi, au final, parce que du coup il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas une rivalité vraiment violente qui se construit entre les deux. Ça peut très bien exploser à Payback du coup. Moi j'aime bien ce Matt Hardy qui nous tease un petit peu des expressions comme ça de. Il y a des petits spasmes là où il fait ses gimmicks de broken, on voit qu'il est encore à moitié perturbé. Quand on connaît le truc, je trouve que ça fonctionne bien, ça lui apporte de l'épaisseur. Après, concrètement, dans le ring, c'était pas folichon. Il est quand même. On sent quand même les années hein, sur le personnage. Il a un peu les genoux qui ont l'air de plier difficilement. Mais bon, voilà, et je pense qu'il peut rattraper le coup dès qu'ils auront pu débloquer un peu ce gimmick de Broken Matt Hardy. Ça va peut-être être le début, justement, je pense, hein, de l'arrivée de ce gimmick, le match à Payback, qui risque de peut-être de partir sur une défaite, ou alors que l'affrontement devienne vraiment très violent, au point de laisser des séquelles auprès des deux Hardy. Mais bon, comme ça, c'était un match plutôt correct. Moi, j'aime bien Sheamus en ce moment. Je trouve qu'il est vraiment dans le ring. Il donne le meilleur de lui-même. Il a rarement été aussi bon. Donc, c'était quand même un match plutôt plaisant. Après, ça manque de pêche un petit peu tout ça. Mais bon, on verra bien un Payback s'ils finissent par capitaliser sur le côté broken ou si. Ou si c'est une simple historiette de face contre face qui va pas donner grand-chose, quoi.
Ben, c'est vrai que c'est casse-gueule, Broken, parce qu'ils ont pas, ils ont pas pu, je pense que c'est des questions de droit, ils ont pas pu le faire arriver en Broken, mais du coup là il l'est pas vraiment, même s'il a la même couleur de cheveux et qu'il fait effectivement quelques petites gestuelles. Mais du coup, s'il est devenu Broken à la TNA, c'était quand même enfin, c'était la fin d'une guerre. Son frère l'avait complètement détruit. Enfin, voilà, il y a une raison. Tu deviens broken parce que t'as été détruit. Alors là, comment ils peuvent pas nous rejouer l'histoire, parce que enfin, ça serait nul, quoi. Si on nous refait un Matt Hardy qui se fait détruire par je ne sais qui et qui revient broken. Donc, il faudrait qu'ils nous l'emmènent un peu différemment. Je sais pas. En tout cas.
Bah, faut quand même tenir compte du fait qu'il n'y a pas non plus énormément de monde qui a vu son segment
Ouais.
concrètement à impact, hein. Donc, ils peuvent quand même essayer de recycler ça d'une manière un peu légèrement différente, mais à peu près pareil. Mais de toute façon, ça pourra pas être clairement à 100% la même chose que ce qu'ils ont fait à la TNA. Ça va être quelque chose d'un peu dans les canons de la WWE, je pense. Mais faut qu'ils gardent ce truc parce que je pense que s'il enlève ses gimmicks, ses sourires de psychopathe là et des choses comme ça, le public va se désintéresser de lui. Même s'il a toujours été quand même immensément populaire, Matt Hardy. Le public risque d'être frustré et peut-être de le laisser un petit peu voilà de plus soutenir autant ce qui ferait revenir un peu à un stade équivalent où il était quand il a quitté la WWE, c'est-à-dire en mid-card et puis à côté Jeff Hardy pourrait repartir en solo. On parle aussi d'un run en solo éventuellement de Jeff Hardy, mais moi, je pense que ce serait plus judicieux quand même de capitaliser sur son côté broken parce que c'est quand même super fun, quoi.
Ouais, bah je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que les Hardys, c'est vraiment en termes de merchandising, ça c'est une poule aux œufs d'or, mais c'est une vieille poule.
Ouais.
Donc il faut pas, comme tu dis, il faut les protéger. Et je pense que le fait d'être en tag team, bah comme on a vu là, hein, ça permet d'en faire catcher un une semaine, l'autre la semaine d'après, donc ça les ménage un petit peu. Non, c'est mieux quand même parce qu'effectivement, là, il faut qu'ils mettent le paquet côté gimmick parce que sur le ring, ils sont un peu vieux,
C'est
quoi.
ça, bah surtout Matt, hein, ça se voit qu'il est.
Ouais, surtout.
Je m'inquiétais surtout pour Jeff, mais encore, il arrive encore à sortir ces espèces de cascades et tout dans tous les sens. Mais Matt, il tient pas phénoménal à l'époque et là maintenant vraiment il y a le poids des années qui joue, donc c'est pas trop, ils ont pas trop le choix. Sinon ils vont finir comme les Dudley, quoi. C'est
Ouais,
voilà.
non, faut pas espérer. Bon, eh bien, enchaînons. Alors, on repart un petit peu dans les coulisses, hein, puisqu'il y a Kurt Angle qui est pris à partie par le Miz. Le Miz est furieux de ce qui est arrivé un peu plus tôt dans la soirée, hein. Eh bien, Kurt Angle lui dit que pour tout ça, il va falloir qu'il trouve un tag team partner pour affronter en main event, eh bien, Chris Jericho et Dean Ambrose. Donc voilà, le Miz est à la recherche d'un tag team partner. Alors on y reviendra un petit peu plus tard au moment du main event. Et de leur côté, eh bien Jericho et Dean Ambrose, eh bien ils interagissent également dans un autre segment. Je regroupe un petit peu, puisque Dean Ambrose, eh bien il demande officiellement dans les coulisses à Chris Jericho à être sorti de la liste, puisque Dean Ambrose il le sait, hein, il le sait, il le sent, il l'a deviné, il est sur la liste de Jericho. Et il aimerait bien être sorti de la liste. Alors, Y2J lui rappelle quand même qu'il lui doit 15 000 dollars, qu'il lui a fait passer à travers je ne sais plus combien de punaises. Tu te souviens du chiffre exact, toi,
On était
Rexite?
quelque chose comme 76 ou quelque chose comme ça.
Ouais, je crois que c'est ça. Bref, Dean Ambrose, très, très cool, très classe, il fait son mea culpa, il dit ok, je le referai plus, c'était violent, excuse-moi, etc. Je t'ai offert une belle veste, Chris Jericho est d'accord. Il se laisse convaincre, il dit ok. Tu sais ce qui t'arrive, Dean Ambrose, quand tu offres une belle veste qui ressemble à la mode de Paris. Alors, je sais pas s'il y a des amis parisiens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, confirmez-nous, est-ce qu'on sort comme ça dans les rues à Paris? Parce que moi, je suis pas parisien, mais...
Moi j'y étais il y a pas longtemps, effectivement, hein. Il porte des vestes comme ça, hein. Je
Ah,
confirme.
d'accord, bah,
Il faut
ok, bah,
sortir
très
le
bien.
soir, quoi.
Ok. Mais en tout cas, donc voilà, Jericho est très content et il dit, eh bien, je te raye de la liste. Et effectivement, on voit qu'il fait un grand trait sur la liste. Alors, Dean Ambrose est content lui aussi. Dean Ambrose s'en va. Mais la caméra reste malicieusement quelques secondes de plus. Et on voit Jericho qui réécrit très rapidement quelque chose. Alors, ce qu'on en conclut, hein, c'est que il a en fait remis Dean Ambrose dans la liste. Est-ce que toi, tu penses que c'est ce qui s'est passé?
Ah ouais, je pense qu'il l'a remis dedans, hein. J'ai vu, hein.
Ouais, je pense
C'est
aussi.
un. Bah oui, on n'est pas enlevé comme ça. Hein, de la... Puis il lui a
Non,
tapé
non.
dans le dos un peu violemment à la fin. Il lui a mis des petites
Ouais, c'est
claques là.
ça.
Je pense qu'il a été trop loin, quoi. Donc forcément. Mais non, mais c'est encore. C'était rigolo. Hein, ça mange pas de pain. Je sais pas. Il fait toujours marrer, hein, Chris Jericho. Et puis un Dean Ambrose, il est aussi doué dans le à faire le comique. Et puis il y avait un petit passage où Maryse a parlé français. Je sais pas si
Oui,
t'avais à
c'est
la fin, elle
vrai.
a engueulé ce bon vieux Kurt
Kurt
Angle
Angle.
qui est vraiment génial. Hein. Kurt Angle, franchement,
Ouais.
c'est vraiment un ajout parfait là dans le roster de Raw là pour redynamiser un peu toute la dynamique là avec les general managers. C'est vraiment rafraîchissant par rapport à ce qui se faisait avec l'autorité et tout ça. Moi, je le trouve exceptionnel.
Mais je suis bien d'accord avec toi et nous n'avons pas fini de voir Kurt Angle ce soir, mais entre-temps, petite pause. Alors c'est le moment Cruiserweight. TJ Perkins, qui est désormais un méchant, et Neville, hein, son nouveau mentor, affronte Jack Gallagher, Gentleman Jack Gallagher, et Austin Aries. Alors tout commence avec Gallagher qui se fait beaucoup dominer. C'est le face en péril, hein, qui se fait un peu dominer par les deux autres. Il prend cher pendant plusieurs minutes. TJP et Neville se relayent efficacement, mais il réussit à faire un hot tag. Et là, Austin Aries, il fait un putain de ménage. Il arrive à défoncer les deux. Alors, je sais plus toutes les prises qu'il fait, mais il arrive à défoncer TJP et Neville. Il les balance tous les deux à l'extérieur du ring. Il fait un suicide dive tous les deux. Il les ramène sur le ring. Alors après, il y a une nouvelle période un peu plus calme où Gallagher redevient l'homme légal et il se remet à subir. Il inverse la tendance avec son fameux headbutt, hein, qui est un peu sa marque de fabrique et qui sont assez violents, assez bruyants, assez impressionnants. Alors moi, à ce moment-là du match, il y a eu une petite confusion. Je plus trop clair de savoir qui était l'homme légal dans les deux camps. Mais enfin, l'arbitre a suivi et c'est Austin Aries qui était l'homme légal et qui a placé son finisher, son Discus Five Arm, sur TJ Perkins pour la victoire. Donc les gentils l'emportent. Et à savoir que ce dimanche à Payback, ce sera Neville contre Austin Aries pour une revanche donc de WrestleMania pour le titre Cruiserweight. Qu'en as-tu pensé ringside?
Eh bien, le match en lui-même était cool. Hein. C'est vraiment quatre mecs qui sont hyper talentueux, donc forcément, ça donne du bon match. Mais il y a vraiment le public qui est silencieux mais mort quand les matchs démarrent. Ça tue vraiment le spectacle, hein, quelque part. Ils finissent quand même par s'enthousiasmer, mais il faut vraiment que les mecs sortent le grand jeu. Mais je sais pas si c'est un jeu du public de vraiment de faire le silence de mort quand il y a les cruisers qui arrivent, mais c'est ça décolle toujours pas. Hein.
Bah, j'ai pas trop, moi je suis pas trop prêté attention. Vrai. Il me semble que Austin Harris il marche quand même.
Bah ouais, quand il commence à sortir,
mais alors,
les débuts de match c'est pouf.
Ouais, c'est vrai.
Après, bon, bah comment TJP en heel, ça fonctionne plutôt pas mal. On a envie de lui mettre des baffes de toute façon, donc c'est plutôt bien tourné. Franchement, le match dans l'ensemble était vraiment cool. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai toujours pas mentionné, mais que je vais mentionner aujourd'hui. Je déteste l'arbitre des cruisers de la division cruiser. Là. Il arbitre d'autres matchs aussi. Là, le mec avec sa tête de poisson mort, là, je trouve qu'il en fait trop. Il s'immisce dans les combats en tenant le bras des catcheurs, il les empêche d'agir, et il fait des têtes pas possibles quand des mecs se prennent des coups style oh mon dieu il l'a tapé. Je trouve qu'il est vraiment nul, il a tendance à me sortir des matchs. J'apprécie pas du tout cet arbitre. Alors, je pensais pas qu'un jour je me poserais une gueulante sur un arbitre, mais celui-là il m'embête. Je sais pas si je suis seul dans ce cas, mais je le déteste.
Mais l'arbitre a toujours raison.
Ouais.
Non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il surjoue beaucoup, celui-là.
Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur les cruisers. Après, bon, le problème, c'est toujours qu'on a la suite à 205 Live, donc on est toujours un petit peu dans des petits bouts de rivalité comme ça. Mais bon, ça donnera sûrement encore un match super cool à Payback entre Neville et Austin Harris qui était super. Comment dire, déterminé là dans le match, hein, il avait le visage fermé. Un autre Austin Harris, c'est un peu moins à la cool qu'on avait l'habitude de voir. C'est aussi bien sympa ça.
Ouais, il est très très bon. Enchaînons et nous enchaînons sur l'événement qui nous est annoncé depuis le début du show sur la grosse affiche de cette soirée, puisque suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, souvenons-nous, hein, Braun Strowman avait pété les plombs. Et il s'était amusé à peu près détruire tous les low-carders du roster. Hein. Il avait détruit Artruth, il avait détruit tout le monde en coulisses. Et il avait notamment détruit Kalisto en le foutant dans une poubelle. Et ça, Kalisto, eh bien, il veut... Et Arthur, il est sadique.
C'est drôle.
Et,
il avait mis dans la poubelle.
Mais Kalisto, quand même, il veut venger son honneur. Et donc, ce soir est organisé un dumpster match. Donc, le principe, c'est de mettre justement son adversaire dans une poubelle pour gagner entre Kalisto et Braun Strowman. Alors, c'est le géant qui arrive le premier sur le ring. C'est Strowman. Il prend le micro hein, pour faire une promo de heel caricatural suprême. Tout le monde dans la salle, c'est de la grosse merde, en gros. Et je peux mettre tout le monde dans une poubelle. Et surtout, j'ai très hâte de le faire avec Roman Reigns. Et du coup, les gens savent plus trop s'ils doivent huer ou encourager Strowman. Kalisto, lui, il va vers le ring, mais en coulisses, il est interrompu par Kurt Angle, quand même, qui essaye de le dissuader. Hein. Il fait un peu comme Mick Foley avait fait pour Sami Zayn il n'y a pas si longtemps, mais le luchador est décidé. Hein. Kalisto, il dit qu'il est un homme, hein, même s'il est tout petit, et Lucha, hein, c'est aussi se battre, et il faut qu'il se batte, et s'il est même pas capable de se battre pour son honneur, bah, il serait capable de se battre pour rien. Donc, rien n'empêchera ce match d'avoir lieu. Et le match a lieu, Kalisto commence par dominer, hein, il prend vraiment son adversaire de vitesse, il saute dans tous les coins, il fait quelques dropkicks, et il arrive à esquiver Braun Strowman. Mais ça ne dure pas très longtemps, hein. Il est projeté quasiment d'un bout à l'autre du ring hein, par Braun qui contre une sorte de, je sais plus trop ce qu'il contre, mais il l'attrape et il le projette quasiment d'un turnbuckle à l'autre. Et ben là, on assiste à ce qu'on attendait, hein, une destruction. Mais c'est pas une destruction. Il prend son temps, Strowman, mais on sent quand même qu'il essaye à plusieurs reprises de finir, hein, mais il n'y arrive pas. Hein. Kalisto, il est trop, Il est trop vivace, il arrive à passer entre les jambes, il arrive à éviter, il arrive à faire basculer son poids côté ring et pas côté poubelle, hein, je précise, la poubelle elle est au pied du ring en fait. Et puis, eh bien, pour une énième tentative de Braun Strowman qui s'est mis donc debout sur le bord du ring pour jeter Kalisto, eh bien Kalisto se dégage et il contre par un dropkick et c'est Braun Strowman qui tombe à pieds joints dans la poubelle et la cloche sonne. C'est Kalisto qui a gagné cette rencontre. Donc David a triomphé de Goliath. Officiellement, Kalisto a battu Braun Strowman. Il s'est vengé. Il a lavé son honneur, mais c'est le début des ennuis pour lui, hein, puisque bah, le monstre barbu va ensuite passer de longues minutes à le détruire, à le foutre dans la poubelle, à emmener la poubelle sur le Titantron. Alors là, il y a intervention évidemment de tout le monde, des arbitres, il y a Finlay, il y a Jamie Noble et Joey Mercury, je crois.
C'est
Peut-être pas
Adam
Mercury.
Pearce. Mais il est pas, il
D'accord.
a jamais catché à la WWE, mais il est dans le staff.
D'accord. Bon, il y a quelques figures du staff, plusieurs arbitres, mais on le sait, hein, dans le catch, les arbitres et le staff n'arrivent jamais à dissuader un catcheur décidé. Braun Strowman fait semblant de laisser tomber, puis finalement il pousse la poubelle qui contient Kalisto à l'extérieur du Titantron. Donc le pauvre Mexicain est complètement renversé dans la poubelle. Tout le monde se précipite pour ouvrir la poubelle et tout le monde connaît ce qui se passe ensuite, hein, la Minerve et la civière, et Kalisto s'en va et Kurt Angle le regarde partir en ambulance, visiblement attristé. Alors, est-ce que toi, tu étais attristé ou est-ce que tu riais à ringside?
Ah, moi, ça, un Mexicain dans une poubelle, ça me fait toujours rire. Mais c'était un peu trop long, je trouve, toute la partie qui a suivi le match. Je sais pas. Le match en lui-même était pas mal. Je trouve que Kalisto, il manque un peu de précision quand même dans ses attaques en règle générale, comparé par exemple à, bon, bah, tout simplement à Rey Mysterio, hein. Mais dans l'absolu, je trouve que le déroulé c'était un petit peu long, tout le passage après. Ça tue un peu le fun du truc. Après, bon, le concept en lui-même, match de la poubelle, bon, pourquoi pas. Mais il y a des petits trucs, il y avait un manque un peu de, comment dire, de sens du détail. La cloche a sonné, mais on n'a pas annoncé Kalisto comme vainqueur. C'était un peu bizarre. Et puis le fait que, bon, il y a juste à tomber dans la poubelle pour perdre. Je trouve ça un peu facile, mais bon, c'était quand même
Ah.
efficace pour un peu monter Kalisto. Une bonne victoire contre Strowman, ça lui fait du bien. Pareil, ça te fait humilier, voilà, comme ça la semaine dernière. On voit qu'ils ont quand même un petit peu de projet pour lui. Il a un nouveau costume là qui est. Je trouve que le masque est pas mal, le reste c'est un peu moins ma tasse de thé, mais voilà, on voit qu'ils n'ont pas fait manger la poubelle pour rien. Il va avoir droit quand même à un petit push des familles. Et puis bah, Strowman, voilà, ça lui fait une défaite, mais qui va pas le déshonorer plus que ça. Ça va pas casser son build. Voilà, dans l'absolu, c'était plutôt sympatoche quand même.
Ouais, moi je trouve qu'ils ont fait le meilleur résultat possible, c'est-à-dire que la victoire de Kalisto effectivement lui fait du bien parce que sinon c'était fini pour lui quoi, sa carrière il n'arrête pas de prendre d'être détruit par tout le monde, hein. On se souvient quand il était victimisé par le Baron. Et puis au final c'est assez crédible. Enfin voilà, il se fait pas non plus Strowman, il a juste été déséquilibré. Mais ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'était juste la fin du match, c'était un peu long et chiant parce que tout le monde savait depuis 10 minutes que Kalisto allait finir éjecté à l'extérieur du Titantron, et ça a mis
Ouais,
beaucoup
il
de
a
temps.
galéré pour monter la poubelle. Alors qu'il
Oui,
retourne une ambulance comme ça, mais alors monter la poubelle, c'est un peu chaud. Donc je suppose qu'ils lui ont fourni une poubelle de merde qui devait pas rouler correctement. Donc ça, c'est pareil, sens du détail, c'est un peu con quand tu prépares un gros truc comme ça. Le machin, il est
ouais.
tombé. Quand il a fait pousser la poubelle, c'est tombé un petit peu à plat. Ça pas, c'était pas, pas aussi spectaculaire, je pense, que ce qu'ils espéraient. Mais voilà.
Oui, on aurait dit qu'il, tu sais, comme quand tu récupères le caddie pourri au supermarché, là,
Voilà,
celui
celui
qui
qui
tourne
t'emmerde
mal.
quand tu fais tes courses, bah voilà. Ouais, il avait l'air d'une
C'est
vieille dame
ça.
qui pousse son caddie, Braun Strowman, à ce moment-là. Ça a pas tout à fait fait l'effet escompté, je pense.
Oui, bah écoute, j'espère qu'il ne nous écoute pas parce que sinon il risquerait de venir te mettre dans un caddie, hein, il est
C'est vrai, c'est
susceptible.
vrai. Ne parlons pas trop fort.
Non, mais passons à la suite. Alors il y a deux segments qu'on va passer assez rapidement. Je pense Bray Wyatt nous fait un petit coucou depuis chez lui pour nous parler de la House of Horrors et à quel point il va détruire Randy Orton. Je sais pas si tu as un commentaire, hein,
Non,
c'est le
j'ai
same
pas écouté ce qu'il
classique.
disait de toute façon.
Oui, moi non plus, pas spécialement. Ensuite, on a la première apparition féminine, enfin sur le ring, hein, on a déjà eu Maryse tout à l'heure, mais Dana Brooke bat Alicia Fox dans un match que je ne vais pas spécialement résumer. Et elle est rejointe par Emma qui la félicite. Alors, Dana Brooke, on sent qu'elle est mi-flattée, mi quand même un peu énervée. Emma s'en va et laisse Dana Brooke célébrer sa victoire. Bon. Je sais pas si tu veux en dire quelque chose, le public avait l'air de s'en foutre
Ouais, c'était pas
totalement.
super intéressant. Le match était moins désastreux que ce que j'aurais pensé. Puis, mais bon, c'est la suite de la semaine dernière. Il n'y a rien de spécial à raconter. Hein.
Non. Mais bon, puisqu'on est sur les filles, on va rester sur une fille que tu apprécies beaucoup, je crois, Ringside, puisque c'est la belle Charlie
Ah,
Caruso. Et oui, Charlie
qu'est-ce qu'elle est
Caruso, elle
belle!
est au micro avec. Oui, je suis d'accord avec toi. Elle est au micro avec Samoa Joe, Gallows et Anderson, qui vont avoir un match ce soir contre Enzo, Cass et Seth Rollins. Donc un tag team match à 6. Bon, pas grand-chose d'intéressant hein, dit au micro de Charlie. Gallows et Anderson, ils traitent toujours tout le monde de
C'est
nerd.
ça.
C'est
Leur
leur
gimmick qui fonctionne pas
voilà,
depuis.
leur gimmick qui veut pas dire grand-chose. Mais le match a lieu dans la foulée, donc on a ben Enzo Amore et Big Cass qui arrivent, hein, petite promo classique, hein, badaboum, realest guy in the room. Sauf qu'ils ont à peine fini leur promo qu'ils se font démonter par les méchants qui arrivent depuis directement les coulisses. Alors je pense que la salle d'interview était pas très loin de la rampe d'accès. Les trois méchants tabassent Enzo Amore, hein, qui un peu comme
Ouais,
Kalisto, hein, je crois qu'une semaine sur deux il en
c'est
prend plein
ça.
la gueule. Et bon, Seth Rollins arrive, bien sûr, hein, il se précipite, ça reprend un peu l'avantage côté gentil, hein, les méchants se retrouvent à l'extérieur du ring, mais c'est trop tard, Seth Rollins est arrivé trop tard comme la cavalerie, et Enzo Amore eh bien gît inconscient sur le sol, Big Cass est bien embêté, a l'air bien attristé. Kurt Angle arrive à nouveau, hein, un GM décidément très très réactif. Il est pas content. Il est pas content qu'on casse comme ça un catcheur avant de faire son match. Du coup, eh ben, il est très 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 réactif puisque il a dû arriver 2 secondes après que Enzo Amore soit officiellement out et il a quand même eu le temps de trouver un nouveau partenaire. Il veut pas que ce soit un match handicap. Et le nouveau partenaire de Seth Rollins et Big Cass, eh bien, c'est Finn Balor, le fameux démon irlandais. Là, de suite, je pense que les méchants ont dû faire la gueule, hein, parce que tabasser Enzo Amore pour se retrouver avec Finn Balor en face, c'est pas mal comme remarque, c'est une sanction pas mal. Hein. Et puis, bah, je pense que nous, on était plutôt contents de ne pas avoir Enzo Amore catché,
C'est pas faux,
parce que
c'est pas faux.
ouais, c'est pas faux. Hein. Donc, le match commence, ça commence par les grands costauds, hein, Gallows contre Big Cass. Big Cass, il est toujours booké très fort, je trouve, hein, il prend souvent le dessus. Les gentils dominent, mais c'est Balor qui va faire un tag et mal lui en prend, puisqu'il va subir ensuite pendant bien longtemps, de Anderson, de Gallows et de Samoa Joe. Il va être un peu esseulé dans le coin de multiples reprises, il va encaisser les kicks de Samoa Joe, bah, la destruction de tout le monde. Il réussit quand même à placer un hot tag, et le hot tag, il le place à Seth Rollins. Seth Rollins, lui, il nous fait un peu ce qu'a fait Austin Aries un peu plus tôt dans la soirée, il détruit tout le monde à lui tout seul, il éclate Anderson, il passe un bel Enzo Guerri à Gallows, Big Cass intervient pour placer un Big Boot sur le Gallows, un Big Boot tellement big qu'il passe tous les deux par-dessus la troisième corde. Rollins, lui, chope Anderson et l'envoie sur Samoa Joe qui était à l'extérieur du ring, et puisque c'est pas suffisant, il fait lui-même un suicide dive. Donc tout le monde est à l'extérieur du ring. Rollins est l'homme légal, il attrape Anderson, il le ramène à l'intérieur du ring. Il y a Samoa Joe qui veut intervenir, mais il est stoppé par un dropkick de Finn Balor. Rollins attrape Anderson, il s'apprête à lui faire un pédigré, mais
Non, non,
Non,
non.
non, 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 c'est non, c'est fini le pédigré là, il a compris, hein. Du coup, il place son nouveau finisher, alors non, qui s'appellerait a priori le Kingslayer, hein, si j'ai bien vu sur Internet. Qui, comment décrire, il attrape la main de son adversaire et il le tire vers lui et en lui mettant son genou dans la
Voilà, à peu près.
gueule.
Il fait tourner une petite danse qui se
Voilà.
termine par un bon coup de genou dans la
Voilà.
mâchoire.
Un genou dans la gueule et du coup, 1, 2, 3, tombé et les gentils l'emportent. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu aurais aimé quand même voir Enzo Amore dans ce match?
Ah
Dis-moi
ouais,
tout exact.
c'est une déception quand même de pas avoir un petit peu Enzo dans le ring. Encore une fois, le plan machiavélique de Gallows et Anderson qui tombe à l'eau. À chaque fois qu'ils essayent de casser quelqu'un avant le match, finalement ils se retrouvent avec des trucs plus compliqués à gérer. Donc ils devraient quand même penser à en prendre note à un moment donné. Mais je crois qu'ils sont pas là pour réfléchir plus loin que ça. Moi j'aime bien comment on gère Finn Balor là depuis son retour. Il est un peu protégé. Il fait toujours, quand il fait une apparition, c'est toujours voilà, apparition surprise un petit peu. Il est toujours aussi populaire auprès du public. Son entrée, ça fonctionne toujours aussi bien. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même le mec qui a battu Roman Reigns. Il n'y a pas grand monde qui a battu Roman Reigns. Donc quand il va
C'est
repartir
vrai.
dans une vraie rivalité, il va falloir que ce soit contre quelqu'un de costaud. Donc on nous avait teasé un peu Bray Wyatt, à voir si on va vraiment partir là-dessus. Voilà, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va réussir à prendre le pas sur Finn Balor avant un moment. Toujours le match en lui-même était bien cool, hein, avec tous ces, il y avait du talent là encore une fois dans le ring.
Ah oui.
C'est plus délicat sur Seth Rollins, toujours son booking, puisqu'il c'est encore une fois le héros qui arrive, mais alors il arrive au pire moment quand il y a des seuls contre trois, quoi, donc c'est quasiment du suicide. Heureusement qu'il y a Big Cass qui arrive pour l'aider quand même du Diable Vauvert. Mais alors après Big Cass, là, son Big Foot par-dessus la troisième corde, là, ça devient un signature move et il va finir par se tuer, hein, s'il le fait à chaque match. Ce basculement là par-dessus la troisième corde en même temps qu'il fait son Big Foot, mais bon, c'est
C'est
impressionnant. Au moins,
impressionnant en
c'est
tout cas, hein.
un move qui impressionne, hein, tout simplement, hein, qui est fun. Qu'est-ce qu'on. Et puis le finish, je suis content que voilà, ils ont enlevé le pedigree à Seth Rollins. Ça fait un moment que je réclamais.
Alors, qu'est-ce que tu en penses de
Ah
ce
bah c'est bien
nouveau...
cool, hein, cette espèce de... Alors c'est une prise qu'il a piquée à Kenny Omega, qu'il avait fait au Wrestle Kingdom face à Okada, puisque c'est au
D'accord.
départ quand il prend le mec comme ça par la main pour le faire tourner, ça c'est Okada qui le fait, mais il termine sur une corde à linge, et pour la variante, Kenny Omega l'avait fait, mais comme il fait souvent des coups de genou comme ça à la volée, il avait placé un coup de genou à la place, mais c'est pas... Bon, c'était pour le coup, et voilà, ça fonctionne bien en manœuvre de finish, donc surtout pour Seth Rollins, qui est plutôt pas mauvais au niveau des coups de genou. Voilà, je l'aime bien en face, Rollins, quand il catch, mais alors après, maintenant, il faudrait vraiment qu'il le book de manière un peu plus... qu'il passe un peu moins pour un con à chaque fois. Et le dernier truc que je voulais ajouter, c'est la Samoa Joe dans sa promo. J'ai bien aimé, parce qu'il fait une promo à l'ancienne, il parle comme les anciens, face à la caméra, là, en menaçant son adversaire. C'est classique, mais c'est efficace et c'est le seul qui arrive à faire ça, j'ai l'impression, dans le roster à l'heure actuelle. J'aime bien. Du coup, tout ça, moi, j'ai envie d'en voir plus. Voilà, je suis plutôt bien accroché par tout ce truc.
Ben, précisons hein, du coup que pour Payback, le prochain pay-per-view, nous aurons donc la Team Soft contre Gallows et Anderson et Samoa Joe donc contre Seth Rollins. Ça s'est booké depuis un petit moment. Alors à voir hein, si Rollins va surfer sur son grandiose succès contre Triple H à WrestleMania ou si quand même il va falloir donner une première victoire de prestige en pay-per-view à Samoa Joe.
Suspense.
Suspense, suspense. Mais nous n'avons pas le temps hein, de
Ah
nous
non.
attarder là-dessus quand nous visionnons, puisque nous repartons dans le feu de l'action et nous repartons chez les filles. C'est la petite nouvelle de la Team Raw, la transfuge, Alexa Bliss, qui arrive. Alors Alexa Bliss, elle a des choses à dire. Elle dit surtout que toutes les superstars de Raw disent toujours la même chose quand elles arrivent. Elles disent toujours qui elles vont affronter, qui elles vont battre, quelle ceinture elles vont gagner, etc. Les pires de toutes, hein, bah, c'est celles qui disent qu'elles ont réalisé leurs petits rêves d'enfance, de petites filles avec des arcs-en-ciel, des papillons, tout ça. Elle aime pas dire ça, Alexa Bliss, elle est sur le point de vomir tellement ça l'écœure. Le public, lui, s'amuse à lancer des watts, et Alexa réagit très bien. Elle dit, ok, vous voulez jouer à ça, allez-y. Alors, Alexa Bliss est la meilleure, dites what. Et tout le monde tombe dans le panneau, tout le public fait what. Moi, je trouve ça très drôle. Ensuite, qui c'est qui arrive? Eh ben, c'est Bailey. Et Bailey, elle est pas bête du tout. Elle arrive et elle dit, mais dis donc, Alexa, quand tu parles des catcheurs qui disent qu'elles réalisent leur rêve de petite fille, je comprends que tu parles de moi. Bailey est très intelligente. Alors Bailey, qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben, elle dit un peu toujours la même chose, hein, que c'est son rêve de petite fille, mais que en plus de dire tout ça, eh ben, elle le prouve, hein, elle le fait, elle le gagne, elle a son titre, elle est championne, donc elle fait pas que parler, contrairement à Alexa Bliss, hein, qui parle et en plus qui parle dans le dos. Alors j'ai toujours du mal un peu avec la notion de parler dans le dos de quelqu'un quand tu prends le micro devant 16 000 personnes,
c'est
mais
pas faux.
Là. Et Bailey, elle dit qu'elle va gagner, puisque je rappelle, hein, Bailey et Alexa Bliss vont s'affronter. Bailey dit qu'elle va gagner hometown, donc chez elle. Alors ça, Alexa Bliss, elle était pas au courant et elle est super contente de l'apprendre. Elle dit mais c'est formidable, c'est chez toi, donc à San José, Californien. C'est chez toi, le prochain pay-per-view dimanche, je vais pouvoir t'humilier devant ton père, devant ta famille, ça c'est le plan de rêve. Sur ces entrefaites, Sasha Banks arrive. Sasha Banks, elle a pas grand chose d'intéressant à dire, mais elle défend Bailey, elle dit que ben, la championne c'est Bailey, la meilleure c'est Bailey, et celle qui va gagner dimanche c'est Bailey. Alexa le moque un peu, elle dit ouais, encore vous deux, alors elle fait une allusion comme quoi Sasha Banks, elle prépare la gamelle du midi à Bailey, hein, puisqu'elle la materne beaucoup. Comme chez les filles, quand on parle, il faut quand même un peu passer au catch, c'est quand même le plus intéressant, et bien Sasha Banks, elle veut détruire Alexa Bliss ce soir. Alors Alexa refuse, mais il y a une coupure pub et le match a lieu finalement. Sauf que Alexa, quand elle veut pas catcher, eh ben elle veut pas catcher.
C'est ça. Faut pas la forcer.
Assez rapidement, elle quitte le ring. Elle s'en va. Hein. Il s'est pas passé grand chose entre temps, enfin pas dans mon souvenir. Et elle quitte le ring et elle se fait décompter. Donc décompte de 10 à l'extérieur. Elle a perdu, mais elle s'en fout. Il y avait Bailey aux commentaires. Sauf que maintenant, les commentaires, hein, la table de commentateurs, ils sont quasiment au pied, hein, de la rampe d'accès. Enfin, quasiment au sommet, plutôt, de la rampe d'accès. Donc, du coup, Bailey, elle attrape Alexa Bliss et elle veut la renvoyer sur le ring. Mais Alexa, elle est quand même assez maligne. Elle réussit à s'échapper des griffes de la câlineuse et elle s'enfuit. Elle s'enfuit. Donc, Bailey, bah, elle regarde sa copine Sasha Banks sur le ring et elle dit, bon, bah... Elle voulait pas catcher, qu'est-ce que tu veux que je dise? Sauf qu'elle aurait pas dû tourner le dos à l'entrée du ring, puisque Alexa Bliss revient quand même, hein, l'ennemi revient toujours, et donne un bon petit taquet sur la tête de Bailey avant de partir ce coup-ci définitivement. Donc voilà, qu'as-tu pensé de cette mise en bouche de l'affiche féminine principale de ce dimanche, mon ringside? Est-ce que tu penses que Alexa Bliss is the best?
Ouais.
Say what?
Non, c'est elle qui a le plus assuré, mais alors c'était tellement au ras des pâquerettes tous ces segments, ça se termine quand même à un moment donné, elle dit à Bailey, ouais, est-ce que t'as déjà embrassé un garçon? Je pense pas, t'es vraiment trop niche. On était vraiment truc de cours d'école, je pense que là on était ciblé vraiment pour les gamins, les gamines, hein, parce que c'était vraiment cucu. On voit quand même la maîtrise d'Alexa Bliss au micro, hein, quand même, qui a réussi à gérer la foule, hein, qui était bien hostile contre elle, avec les watch chants là qu'elle a réussi à retourner. Alors putain, c'était long, et puis voilà, c'est vraiment trop cucu là. Je pense qu'on est un peu trop âgé, on n'est pas le cœur de cible pour ce truc là. Il y avait des trucs qui étaient un petit peu mal foutus, le fait quand elle essaye de la relancer dans le ring. Qu'elle s'échappe, c'était un petit peu nappe ça, et puis Bailey à la table des commentateurs, faut quand même penser à éviter parce que c'est assez catastrophique. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à retirer de ce segment, honnêtement, à part qu'on voit qu'Alexa Bliss a quand même un potentiel assez incroyable, mais là on était. Je pense pas, voilà, je pense pas qu'on était le cœur de cible pour toute cette histoire.
Ben, c'est vrai que j'avais oublié ce passage un peu gamin sur Bailey. Est-ce que t'as déjà embrassé un garçon? Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai pris plutôt comme un gros foutage de gueule d'Alexa Bliss sur cette gimmick très enfantine de Bailey. Après, moi, je suis un grand fan hein, de toute façon d'Alexa au micro. C'est vrai que les deux autres, j'ai du mal. Sacha,
Elles sont nulles au micro, les deux autres. Faut le
elles
dire à
sont
un moment
nulles. Et
donné.
puis en plus, ouais, elles sont nulles. C'est vrai que Bailey a dit la même chose depuis.
Bah, elles sont pas
Depuis qu'elle
aidées,
est
c'est pas ce
là,
qu'ils leur font dire, hein. Ça, c'est.
elles sont pas aidées. Et puis Sacha, je sais pas, il faudrait qu'il lui trouve une feud pour qu'elle arrête effectivement de venir foutre son nez en permanence dans les trucs de Bailey. Ou ça nous teasera peut-être un jour en heel turn prochainement, mais arrête de la coller, lâche-la un peu, quoi. Laisse-la respirer. Non, je suis un peu déçu ouais, par la gestion de. Et de Sasha Banks et de Bailey ces dernières semaines.
Font un peu une gestion à l'ancienne des années 80 quand tu avais Hulk Hogan et Macho Man qui étaient bien bien copains l'un l'autre et puis voilà ils allaient affronter des mecs tout en restant potes. Alors il y en a qui se sont attaqués une fois puis l'autre venait l'aider, voilà, c'était un peu cucu, mais bon, il y avait dans l'idée que il y avait Hogan quand même qui faisait jouer les politics pour éviter que pas se faire piquer le spot par le Macho Man. Là, je pense qu'il n'y a pas de politics dans l'histoire, donc il n'y a pas trop de raison de faire jouer les sous-fifres comme ça à Sasha Banks à côté de Bayley. Et alors du coup, ça, Bayley, elle est amoindrie parce que du coup, elle fait un peu palichonne comme championne. Sasha Banks, elle a pas vraiment de but dans l'histoire à part garder son amitié avec Bailey. C'est vraiment booké, c'est complètement inefficace quoi ce qu'ils sont en train de faire.
Ouais, on verra ce que ça donne si on a au moins un bon match dimanche. Et écoute, passons à la suite. Et la suite, eh bien, c'est un moment de gloire puisque c'est Kurt Hawkins qui lance un nouvel Open Challenge. C'est sa nouvelle mode. Et Kurt Hawkins, il a remarqué que toutes les personnes qui l'affrontent, eh bien, elles vont directement. C'est un ticket pour la gloire, hein, puisque ça a été le cas pour. Ah merde, c'est
Il y a
déjà un
eu
trou. Qui c'est qu'il y a eu? Il y a
Big
eu Finn
Show et Finn
Balor.
Balor.
Ah
Il
oui.
a
Big
fait
Show
du
et Finn
Big Show
Balor,
une
ouais,
star.
j'avais oublié Big Show. Voilà, donc il transforme tout le monde en star. Alors pour ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il se fait lamentablement humilier au passage. Et du coup, ce coup-ci, bah, c'est quelqu'un qui a effectivement besoin d'un peu de gloire qui arrive. C'est Apollo
Apollo
Crews.
fucking Crews.
Oui, Apollo fucking Crews, j'allais le dire. Ne l'oublions pas, Apollo fucking Crews arrive. Et bien, comme tout le monde, il gagne. Alors, je n'ai pas spécialement pris note sur la rencontre. Hein. De toute façon, j'ai pas l'impression que Kurt Hawkins ait un gros attirail à sortir contre ses adversaires. Je sais pas si toi, tu as retenu quelque chose de l'affrontement.
Bon, c'était le déroulé classique d'Apollo Crews quoi, mais il y
Ouais.
avait bon il a pas sorti de move de plus, il a pas rajouté de move à son arsenal, mais bon il a jamais eu trop le temps de briller donc voilà.
Non, bon, on ne sait pas trop ce que ça va faire, mais en tout cas, il gagne. Et eh bien, un peu comme Dana Brooke tout à l'heure, il est rejoint au moment de sa célébration, ce coup-ci pas par Emma, il aurait peut-être préféré, mais par Titus O'Neil. Titus O'Neil qui vient faire un selfie avec Apollo Crews, un selfie où Apollo fait une grimace crispée magnifique. Il n'a pas l'air d'être spécialement content. Mais c'est comme ça se finit ce segment. Alors ringside, Kurt Hawkins, Apollo Crews, Titus O'Neil, qui a le plus grand avenir à la WWE d'après toi?
Ça va être difficile. Hein. Je pense ils ont un bon avenir de low card tous les trois, je pense. Mais ben moi, ça m'a fait marrer hein, tout ça. Hein. Titus Sony, là, il me fait rigoler avec son gimmick d'espèce d'entrepreneur arnaqueur là, de Francis Sou qui essaye de tirer un peu la couverture à lui, là, de grappiller un peu de gloire à côté d'Apollo Crews. Apollo Crews, c'est toujours degré de zéro de la personnalité. Hein. Visiblement, il est mal barré quand même. Et puis, ma foi, Kurt Hawkins, moi, ça me fait marrer son petit. Je l'attends, son segment, chaque semaine maintenant. Et voilà.
Mais alors j'espère que du coup ils vont faire un truc à Apollo Crews la semaine dernière pour que ce côté un peu que ça reste quelque temps ce côté si vous me battez la semaine prochaine
Ouais.
Vous êtes en bonne place. Bon, on verra. Mais pour nous, eh bien, c'est déjà l'heure du main event. Alors, pour ce main event, rappelons-le, hein, Kurt Angle a dit au Miz de se trouver un partenaire pour affronter donc Chris Jericho et Dean Ambrose. Le Miz a cherché des partenaires toute la soirée. On l'a vu discuter avec Cesaro et Sheamus. On l'a vu aussi essayer de recruter Heath Slater et Curtis Axel, puisqu'il a travaillé avec ces deux hommes pour le tournage du Marine 5, hein, c'est mm-hmm. le cinquième, je crois. J'en ai vu aucun, hein, personnellement, mais c'est pas grave. Alors, Curtis Axel a refusé pour je ne sais plus trop quelle raison. Heath Slater, il a dit qu'il a déjà un partenaire. Ce partenaire, on le connaît tous, c'est Rhino, qui mange des crackers. Il a proposé des crackers à Maryse, mais Maryse a renversé les crackers. Alors, Rhino n'était pas content. C'était un peu tendu entre tout le monde. Heureusement, le Miz a reçu à ce moment-là un papier, un télégramme, hein, ça existe encore, a priori. Un télégramme, et il était très content parce qu'il a trouvé son partenaire. Enfin, c'est même son partenaire qu'il a trouvé. Du coup, il va tout content rejoindre le ring, et un petit peu plus tard, dans un autre segment, il a croisé Kurt Angle. Hein. Kurt Angle demande confirmation. Hein. Est-ce que vraiment il y a un tag team partner? Le Miz assure, oui, il y a un tag team partner. Quand Jericho et Dean Ambrose vont voir de qui il s'agit, j'ai hâte de voir leur tête. Et à ce moment-là, on entend eh bien, quelques notes de guitare, car The Drifter passe en arrière-plan. Elias Samson, l'ancien catcheur de la NXT, avec son gimmick donc de rocker...
vagabond.
De rocker, de guitariste vagabond, voilà, passe en arrière-plan. Alors Kurt Angle croit que c'est le fameux partenaire, mais non, le Miz dit c'est pas lui, c'en est un autre. Et bien, donc, le match va avoir lieu, hein, tout le monde arrive sur le ring, les gentils, Jericho, Ambrose, le Miz arrive, il prend le micro, il annonce que son partenaire a un certain sens du drama, hein, de la mise en scène, mais qu'il va arriver, il arrive, personne n'arrive. Alors le Miz, personne, hein, le Miz réessaye, hein, my tag team partner, toujours personne. Alors c'est pas l'homme invisible, c'est pas Fantomas, hein, c'est pas Casper, mais il y a rien. Du coup, le Miz est un peu embêté. Il dit bon, ben, visiblement il a eu du retard, il est bloqué quelque part. Le match va être reporté. Puis finalement, non, le match est annulé. Désolé tout le monde, hein, pardon mesdames et messieurs. Le match est annulé et le Miz commence à s'en aller. Mais à nouveau, Kurt Angle, décidément très très proche du terrain, revient, et Kurt Angle est furieux. Il dit au Miz qu'il avait toute la soirée pour se trouver un partenaire et que puisqu'il en a pas, et ben ça sera un handicap match. Voilà. Donc voilà, Kurt Angle qui un peu plus tôt dans la soirée, hein, je le rappelle tout de même, n'avait pas voulu, voulait absolument pas d'un handicap match pour le tag team à 6, et ben là ça le dérange pas. Mais bon, du coup c'est normal, hein, puisque c'est une punition pour le Miz. Alors le Miz il subit beaucoup, entre chaque prise qu'il prend, il supplie, il dit mais non, mais attendez, il va arriver, il est bloqué, je sais pas, à Hollywood ou je sais pas ce qu'il dit. Bref. Il subit, alors à un moment il est tabassé par Ambrose, il essaye de négocier avec Dean Ambrose, il dit écoute désolé j'ai pas de tag team partner, voilà, il lui tend la main, serre-moi la main, c'est pas grave, on se calme. Dean Ambrose hésite un peu, alors on sait pas s'il est sincère ou pas, mais il écoute les arguments du Miz, le Miz lui tend sa main, il la serre pas vraiment, et puis finalement, je pense qu'on s'attendait tous à ce que Dean Ambrose fasse un Dirty Deeds ou quelque chose. Non, il était vraiment réceptif. C'est le Miz qui perd patience et finit par gifler Dean Ambrose. Alors là, forcément, c'est pas une bonne idée. Dean Ambrose le poursuit à l'extérieur du ring, mais le Miz remonte sur le ring et réussit à donner des coups de pied à Ambrose, et il réussit à prendre un peu le dessus dans cet handicap match. Il domine Dean et il lance même quelques yes chants. Sous les yeux de Jericho, il provoque un peu Jericho, mais au final le tag réussit à être fait, Jericho entre, Jericho domine, il est très 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 en forme, hein, Y2J, il essaye un peu de motiver la foule pour lui, il déroule son catch, si bien que le Miz préfère fuir, il a dû voir un peu Alexa Bliss un peu plus tôt dans la soirée, et il décide de faire la même chose, il fuit, après tout c'est un match injuste. C'est ce que dira d'ailleurs à plusieurs reprises Corey Graves aussi au commentaire. Le Miz fuit. Il n'a pas besoin de ce match-là. Sauf qu'il est poursuivi par Dean Ambrose. Dean Ambrose le réceptionne justement au niveau de la table des commentateurs et il se met à lui infliger une belle branlée. Il commence à le détruire. Il défait les caméras. On sent qu'il veut détruire la table des commentateurs et faire passer le Miz à travers, sûrement en lui portant un Dirty Deeds. Sauf qu'il est interrompu. Il est interrompu par le son de l'enfer et les lumières s'éteignent. Et quand elles se rallument, Bray Wyatt est debout sur la table des commentateurs. Bray Wyatt a surgi du néant. Bray Wyatt est revenu de dans ses ou de la maison des horreurs. Là, ça change toute la donne, puisqu'il place un Sister Abigail à Dean Ambrose en écrasant la tête du lunatique sur les écrans, je sais même pas comment on appelle ça, les espèces de d'écrans lumineux qui sont sous l'écran du Titan Throne, là, c'est l'espèce de...
Le décor des si portes d'entrée.
Un terme pour ça. Voilà. Le décor des portes d'entrée, bref, ça fait mal, visiblement, il s'en relèvera pas, Dean Ambrose, on le reverra plus. Y2J, lui, il se précipite. Le Miz, entre-temps, a repris ses esprits. Ils sont à deux à tabasser Y2J. Le Miz dit « Ramenons-le sur le ring ». Il ramène Chris Jericho sur le ring. Sauf que Jericho, il a réussi à placer un codebreaker Miz. Le Miz est KO. Il roule un peu plus loin sur le ring. Bray Wyatt place une Sister Abigail à Chris Jericho. Et puis, finalement, il se lève. Il est dominateur. Alors, on ne saura pas si c'était lui le partenaire prévu du Miz, a priori pas spécialement. Et le Miz, lui, le tape sur l'épaule en signe d'amitié, sauf qu'il aime pas trop être tapé sur l'épaule, Bray Wyatt, et il met aussi une Sister Abigail au Miz. Et donc il finit debout, puis à genoux, comme il le fait, hein, sur un champ de cadavres. Et c'est ainsi que se finit ce Monday Night Raw, donc sur la vision dominatrice et un peu sortie de nulle part de Bray Wyatt. Qu'en as-tu pensé, Ringside? Est-ce que cette apparition t'a surpris? Est-ce que tout ça t'a plu?
Alors, je me suis bien gratté la tête pendant tout le show pour savoir qui serait le partenaire mystère du Miz. Et comme ça dure 3 heures, j'avais quand même réussi à trouver que c'était Bray Wyatt une fois que j'avais fini par éliminer tous les prétendants. Bah, c'est une bonne façon de réintroduire Bray Wyatt dans le roster de Raw. Pour lui donner un petit peu de charisme, hein, de le faire, de bien montrer quand même un mec quand même dangereux. Là, il élimine quand même trois main eventers d'Euro, hein, quasiment. Le match en lui-même était plutôt sympa. Je trouve que le Miz il joue bien les pinching balls. Les deux autres se sont bien amusés avec lui. C'était plutôt fun à regarder au final, même si c'était un simple handicap match où il n'y avait pas vraiment d'enjeu ou quoi que ce soit, une simple punition pour le Miz, mais il y avait suffisamment de talent pour que ce soit distrayant, puis on attendait l'arrivée quand même du quatrième larron. Voilà, Bray Wyatt qui débarque dans le roster, je trouve que physiquement il est de plus en plus impressionnant, Bray Wyatt, c'est plus efficace quand on le présente comme ça que quand on le fait parler dans des vidéos... où il blablate sans fin, sans fond, pendant 5 minutes. Ça, je trouve ça vraiment nul. Mais là, voilà, présenté comme ça, c'est plutôt vraiment une bonne manière de, à la fois de finir le show et puis de réintroduire Bray Wyatt. Après, voilà, sur ce Raw, je sais pas si comment dire, pour nous hyper pour Payback, la mission est, enfin, clairement la mission est loin d'être réussie, mais voilà, pour le show en lui-même, c'était plutôt un main event plutôt efficace.
Ben oui, moi je sais, j'ai pas trop compris au final si c'était vraiment Bray Wyatt le tag team partner prévu du Miz, ou si le Miz a juste joué Les Brouf et Bray Wyatt s'est ramené parce qu'il avait envie.
Est-ce qu'on aura un jour le fameux de l'histoire? Je ne sais pas.
Non, et puis je pense qu'on s'en fout, c'est pas très très grave. Mais moi, je reste un peu perplexe. C'est vrai que Bray Wyatt, en fait, je ne comprends pas trop. C'est toujours un peu ce personnage très 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 bizarre, hein, qui a l'air de changer d'avis un peu comme de. Plus souvent que de chemise, je dirais. Et du coup là, il apparaît très fort, mais au final, parce qu'il va se lancer dans un House of Horrors dont on ne sait toujours pas quelles sont les règles. Alors ça me dérange un peu quand même. Contre Orton, en plus, a priori, ce match-là n'arrête pas de changer. Une fois il est pour le titre, une fois il l'est plus. Finalement, a priori, il l'est plus. Et comme tu l'as dit, il nous a déjà teasé avoir choisi son prochain adversaire en tant que avec Finn Balor. Donc, oui, c'était un final pour moi de Go Home Show, c'est-à-dire comme tu disais tout à l'heure, le segment d'ouverture était le début et le segment de fin, le main event, c'était la fin de la soirée, mais tout ça n'aura pas grandes conséquences,
Ouais,
hein.
voilà, on est sur du one
De
shot,
toute
hein,
façon,
en quelque sorte.
c'est ça. De toute façon, Jericho, il va probablement partir, enfin, c'est ce qui semble être sous-entendu, hein. Il va retourner faire de la musique. Dean Ambrose et le Miz, ils sont plus ou moins en feud, même s'il y a, je précise, hein, pour le prochain pay-per-view, il n'y a aucun match intercontinental qui est prévu. C'est juste le Miz qui va faire un Miz TV avec Finn Balor comme
C'est ça.
invité. Donc Dean Ambrose, lui, il garde son petit. Voilà pour cette soirée. Eh bien, écoute, mon bon Excel, il est temps de faire le mot de
C'est
la fin.
ça.
Ton top, ton flop et ta nappe.
Alors, eh ben écoute, mon top, à qui je vais donner mon top? Voilà, là, on voit que j'ai pas préparé. Alors, qui c'est que je vais pas encore donner à Chris Jericho, je donne toutes les semaines à Chris Jericho. Ah, je vais filer à Finn Bálor, qui est toujours bien utilisé, toujours super cool. Le flop, je vais le donner aux Gonzesses parce que c'était vraiment pas terrible ce qu'elles ont fait. Et ma note, je vais mettre à 3. Je me suis pas ennuyé, mais bon, c'était pour hyper Payback, c'est loupé. Donc voilà, on était loin du compte. Mais bon, c'était quand même agréable à regarder, je trouve.
Ouais, je suis d'accord avec toi. J'étais dans l'idée de mettre la même note, hein, 3 sur 5. Du coup, je donne ma note en dernier,
Voilà.
en premier. Mais sinon, mon top, oui, bah, moi, je suis pas là toutes les semaines. Donc, je vais pouvoir le mettre à Jericho et plus largement à Jericho et Ambrose. Je vais retenir leurs interactions. On a trop rarement, je trouve, dans le catch, des mecs qui se rappellent de leur feud d'il y a un an.
T'es pas faux.
Souvent, ça s'oublie totalement. Ils ont très bien repris le truc, des 15 000 dollars, des punaises et tout, de la liste. Donc c'était vraiment marrant. C'est mon top. Mon flop, je vais le mettre sur cette fin de dumpster match qui n'en finissait plus et qui a un peu raté son effet, comme tu le disais. Et du coup, bah oui, 3 sur 5. 3 sur 5, c'est ce que je disais. Bah, c'est sûr qu'avec une carte de pay-per-view où il y a Roman Reigns qui est pas là, Randy Orton qui est pas là, Kevin Owens qui est pas là, il faut faire un peu.
C'est ça.
Bah, il faut faire
Et on
comme
parle pas
si.
de Brock Lesnar qui est pas là non plus. Hein. Ça fait beaucoup
Oui,
d'absents.
bah oui, mais lui au moins il est là ni à Raw ni au
Voilà.
pay-per-view,
C'est vrai.
donc
Il
ça,
manquera
c'est cohérent.
personne.
Mais bon, bah oui, au final, écoute, ça fait un main event avec des gens comme le Miz et Jericho et Dean Ambrose, et puis il n'y a pas de titre universel, mais c'est plutôt pas mal quand même, hein. Donc
Ouais, voilà, on peut s'en passer encore un petit peu.
on peut s'en passer. On verra ce que donnera l'avenir. Eh bien voilà, du coup c'est fini pour ce Monday Night Raw, hein. Je rappelle, vous pouvez nous écouter sur iTunes, PodCloud ou sur YouTube, hein, parfois même sur YouTube, vous pouvez nous voir. Alors ça ne sera pas le cas pour cet épisode, ça n'a pas été le cas pour certains épisodes, mais il faut nous regarder régulièrement. Hein. Certains qui nous suivent quasiment hebdomadairement ont même pu voir des choses extraordinaires comme le frigo de Ringside.
Qui sort des bières
N'hésitez
magiques.
pas à. Qui sort des bières magiques, donc n'hésitez pas à suivre chaque semaine parce qu'on ne vous prévient jamais à l'avance et vous pouvez assister à des choses incroyables. Je ne parlerai pas non plus des t-shirts et autres goodies que nous avons. Et n'hésitez pas à laisser bien sûr des avis, des likes, des pouces, des commentaires. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Catch-up, bien évidemment. D'ailleurs, certains d'entre vous commentent nos vidéos sur YouTube. Hein. Il y avait la semaine dernière plusieurs amis, dont un certain Iron Daiki Daikiron. Je sais pas si je le prononce
Iron Daiki,
correctement.
Daiki Iron. C'est son nom d'un
Oui, c'est
côté
ça.
et inversé de l'autre.
Ah, c'est formidable. C'est une sorte
Mais
de
c'est ça.
palindrome. Voilà, et puis il y avait aussi Camille Bourg, qui est un de nos plus grands fans, hein. C'est notre Jean-Pierre Louis-Liégeois à nous, et Joey Rudé aussi, hein. Alors a priori tous ces gens-là étaient un peu un peu méfiants sur le push de Strowman. Ils ont peur que ça va juste servir à alimenter la force de Roman Reigns. Je ne sais pas, je n'en sais pas plus, mais c'est sûr que si ouais, bah écoute, s'ils insistent encore avec Roman Reigns, hein, en Reigns wins lol, après tout ce qu'a fait Strowman et après tout ce qu'a pris sur la gueule le Big Dog suite au départ à la retraite de l'Undertaker.
Sûr que l'inquiétude est légitime, mais je pense qu'on s'oriente quand même vers une victoire de Braun Strowman là au prochain pay-per-view. Ils ont teasé un petit peu là des extraits de l'interview de Roman Reigns qui était dévasté par la mort de son frère, qui était apparemment pas bien. Alors ça, c'était d'un goût douteux quand même. Ils ont un peu mélangé là, un peu le drame familial de Roman Reigns et puis la feud avec Braun Strowman. Et je me demande si c'est pas pour amener un Roman Reigns qui sera en état de faiblesse, ce qui permettrait à Braun Strowman de prendre l'avantage et de sortir gagnant à Payback. Voilà, je les vois mal quand même enterrer Braun Strowman vu ce qu'ils en font ces dernières semaines. Hein. Mais l'inquiétude est légitime.
Bah, c'est en tout. Ouais. L'inquiétude est là. On verra bien. Écoute, on verra bien. En tout cas, voilà. Merci donc à toutes ces personnes qui commentent et qui réagissent. Ça prouve qu'on est écoutés et ça nous fait toujours plaisir. Hein. Soyez de plus
Exactement.
En plus nombreux.
Merci énormément de prendre le temps de nous écrire.
On vous remercie, parlez-en à vos proches, faites tourner les infos, laissez traîner un onglet catch-up ouvert au bureau, hein, c'est totalement safe c'est for work. Et puis commentez, et puis n'hésitez pas à nous donner votre avis, hein. Qu'avez-vous pensé de ce Monday Nitro? Alors j'avoue que je suis nouveau aux commandes, hein, je n'ai pas fait de petits menus comme vous le faites parfois
ouais.
hein, sur
c'est plus
sur ce show.
Que ça se passe.
C'est vrai que c'est au supplément.
On est un peu plus
bon, en tout cas, eh bien, rappelons tout de même hein, que c'est le catch-up numéro 52. Donc, ce catch-up ayant lieu toutes les semaines, nous avons fêté il y a quelques jours notre premier anniversaire. Donc, je pense qu'on fera une vidéo sur ça. Hein. Enfin, peut-être pas une vidéo, mais on fera peut-être un petit épisode.
Voilà.
On essaiera l'ami Ringside avec Hank et puis.
On va essayer de vous sortir un truc un peu original pour cet anniversaire quand même, les 1 an. Happy birthday. Voilà, bon, il n'y a rien de terminé pour l'instant, hein, on vous le cache pas, mais on va s'y mettre.
Hein. Bah, n'hésitez pas à nous soumettre
Dites
des
tout
idées.
Tout ce que vous voulez qu'on fasse, on le fera.
Voilà, et bien écoute, Ringside, ce fut un plaisir hein, de présenter pour une première fois de t'avoir à mes côtés. J'espère que ça s'est bien passé pour toi
très
aussi.
Bien. Je suis très content d'avoir encore fait cette émission et je suis content de voir que tu peux animer tranquillement, c'est super.
Eh bien parfait, eh bien voilà, ben, quant à moi, je vais vous souhaiter à tous une bonne semaine pleine de catch et puis un bon pay-per-view ce dimanche en espérant qu'il soit à la hauteur de nos attentes. Je ne sais pas si nous avons des attentes hautes ou pas, mais je vais clore ce catch-up. Bonne soirée Ringside, à bientôt et à bientôt
ciao,
tout le monde. Salut les marques. Ah, mais j'ai raté. Alors les marques et les smarts, on dit d'habitude.
C'est ça.
Alors, c'est parti.